Le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Sébastien Lecornu.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Alors c'est tombé il y a quelques minutes, Bruno Le Maire confirme que Bruxelles s'oppose au projet de fusion Alstom-Siemens. À quoi sert l'Europe si elle empêche la création d'un géant européen capable de rivaliser avec la Chine?
C'est en effet un non-sens et c'est même une faute politique. Et moi je partage la colère de Bruno Le Maire ce matin. Il faut non seulement se battre pour changer ces règles-là, l'application des règles d'application de la concurrence à l'échelle de la Commission européenne, là sont appliquées avec des critères qui sont complètement dépassés selon nous. Et donc le gouvernement, Bruno Le Maire, le Premier ministre soutiendront, si les deux entreprises décident de faire un recours, ce recours. Il faut continuer à se battre pour faire émerger des grands leaders industriels mondiaux et aussi pour faire changer l'Europe, parce que c'est plus possible.
Oui, parce qu'à 4 mois des européennes, beaucoup de Français s'interrogent sur le rôle d'Europe et se demandent à quoi sert l'Europe.
C'est l'occasion d'avoir un bel exemple d'un objet que l'on peut changer, l'application des règles de la concurrence. Ne regardons pas que le marché européen, regardons le marché mondial lorsque l'on prend ce genre de décision pour ce genre de décision industrielle.
Après avoir animé 5 débats avec Emmanuel Macron, bientôt 6, est-ce que vous avez enfin compris ce que réclament les Français ?
C'est riche ce que réclament les Français. Et puis vous savez, le grand débat il est encore devant nous. 4000 réunions publiques en tout.
Encore un demain ?
Oui, le grand débat, c'est pas que les relations et les questions-réponses entre le président de la République et des Français. Demain, effectivement, on sera de nouveau en Saône-et-Loire, où le président de la République rencontrera des jeunes, toute la jeunesse de ce département, notamment en visitant et en déjeunant dans un EHPAD. Après, le grand débat, c'est avant tout des réunions menées par les Français, organisées par des Français, pour les Français.
Justement,
4000 réunions publiques en tout, juste un chiffre que je n'ai jamais donné.
Sur le site de votre gouvernement.
Un chiffre que je n'ai jamais donné et qui peut quand même vous intéresser, sur 4000 réunions publiques en tout, 1000 sont passées, 3000 sont devant nous. Donc c'est pour vous dire si véritablement le débat, il se déploie en ce moment même.
Alors 4000 réunions publiques, plus de 500 000 contributions sur le site du gouvernement. 700 000 contributions, donc
700 000 contributions et 9000 cahiers citoyens installés dans les mairies. Voilà, c'est les trois chiffres à retenir sur le débat ce matin.
Alors au final, c'est le gouvernement qui choisira les propositions à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez prévu d'organiser un référendum pour faire valider votre choix par les Français?
Alors, le référendum, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Je vois bien que depuis 3-4 jours, on en parle beaucoup comme étant l'alpha et l'oméga de tout. C'est la capacité pour le président de la République de faire trancher une question par le peuple. Bon, tout est sur la table. Le président de la République l'a dit, il n'y aura pas de tabou. Mais une fois de plus, on va attendre la fin du débat. Deuxièmement, c'est une décision présidentielle de recours au référendum. Et pardon, le retour au peuple me plaît bien parce que je suis gaulliste, mais fondamentalement, la question, c'est précisément la question du référendum. C'est pas le principe du référendum en tant que tel. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le débat. Il faudra prendre le temps de regarder tout ça avec beaucoup d'attention à partir du 15 mars.
Mais on parle d'un référendum organisé en même temps que les européennes. Vous qui passez vos journées avec le président.
C'est vous qui parlez de ça.
Vous qui passez vos journées avec le président. Est-ce que vous savez si sa décision est prise?
Non, cette décision n'est pas prise et je sais qu'il regardera tout ça avec beaucoup d'attention à la fin du débat. Je le redis, 4000 réunions publiques, 3000 sont devant nous. Laissons le temps du débat. Je sais l'impatience parfois des médias ou des hommes politiques Non, je pense que les Français ils ont envie de débattre justement. Ils n'ont pas envie qu'on fasse la fin du débat et qu'on donne les résultats avant la fin. Ça, j'en suis persuadé.
Alors, autre idée née de la crise des Gilets jaunes, Gérald Darmanin propose de plafonner les niches fiscales des ménages aisés. C'est un ballon d'essai ou c'est sérieusement envisagé?
Non, mais déjà, le grand débat national permet aussi justement de remettre ces sujets sur la table. 474, je crois, en tout cas plus de 470 niches fiscales pour 100 milliards d'euros. Très franchement, se poser la question de savoir si elles sont toutes efficaces et utiles n'est pas un mauvais débat. Et évidemment, on ne parle pas des chèques emploi-service pour les services à la personne, comme j'ai pu le lire ici ou là. On sait déjà que c'est très efficace, que ça permet de lutter contre le travail au noir, et que c'est très efficace pour les Françaises et les Français, très utile, et que ça crée de l'emploi. Donc sortons cela de l'équation. Après, que d'autres niches peuvent être interrogées dans leur efficacité ou leur fonctionnement, c'est à mon avis une bonne chose que de poser la question. Je rappelle quand même que notre impôt est compliqué, que le prélèvement à la source réussi d'ailleurs par Gérald Darmanin permet de le simplifier. Si demain on peut simplifier encore plus les choses en ayant des réflexions sur les niches fiscales, c'est une bonne chose. En tout cas, ouvrons le débat, pas de tabou.
Et puis, Sébastien Lecornu, Édouard Philippe envisage d'assouplir la loi sur le cumul des mandats. Si vous envisagez que les élus puissent à nouveau cumuler un mandat de député, un mandat de maire, c'est parce que dans l'Assemblée actuelle, la majorité des députés sont complètement déconnectés du terrain?
Non, déjà, le Premier ministre n'a pas pris formellement la parole sur le sujet. Là aussi, le propos est un peu rapide. Enfin plus, le débat le dira. Sauf Français de dire si leurs élus doivent recumuler ou pas. Moi, j'ai déjà indiqué que pour avoir été maire et président de conseil départemental, aujourd'hui je ne saurais pas être ministre et président de département en même temps. Voilà, donc je pense quand même qu'il y a des vertus au non-cumul et que le fait d'être enraciné dans son territoire, c'est aussi la pratique de son mandat. On peut être député et sénateur et passer un temps fou sur son terrain avec ses concitoyens pour être complètement enraciné. Donc là aussi, je pense que, à mon avis, il y a d'autres urgences que de rétablir le cumul des mandats dans le pays, si vous voulez mon avis.
Sébastien Lecornu, hier, 50 députés de la majorité ont refusé de voter la loi anti-casseurs. Alors ça y est, Emmanuel Macron, comme François Hollande, assez frondeur à l'Assemblée ?
Non, là vous allez vite en besogne.
Bah, 50, c'est même pire que sous François Hollande, aux grandes heures des frondeurs, il y avait
comme vous êtes précise,
40 abstentions.
Mara, voilà, vous avez enfin dit le
et
mot.
Il y en a eu 50
ce
hier.
Ce sont des abstentions et pas des votes contre. Juste un point, parce que de quoi parle-t-on ? Cette loi anti-casseurs qui vient du Sénat, il y a des choses qui font consensus dedans. En tout cas, moi que j'attendais depuis longtemps, en tant que réserviste à la gendarmerie d'ailleurs notamment, la question bien évidemment de la dissimulation du visage, quand vous allez manifester très franchement, vous ne mettez pas une cagoule. Le fait de pouvoir confisquer boules de pétanque et autres marteaux dans vos sacs lorsque vous allez manifester. Autant de choses, plein de bon sens qu'il fallait faire. Il y a un débat après, d'ailleurs qui n'est pas un débat qu'à l'Assemblée nationale. Regardez l'interview de François Sureau dans Le Monde, il y a maintenant 48 heures. Un débat sur les interdictions individuelles de manifester.
Bon, mais sur ces abstentions dans votre majorité.
Oui, je vois bien que vous voulez aller sur la politique politicienne.
Non, pas la politique politicienne, c'est en tant que ministre
du grand débat, on peut écouter
50
députés. Depuis que la République existe et dans toutes les démocraties, il y a des grands débats sur la question des libertés. Et donc là, vous avez la liberté de manifester, qui d'un côté est empêchée par les casseurs, et de l'autre côté, dont il faut qu'effectivement on arrive à mieux l'encadrer pour faire en sorte que ces casseurs ne prennent pas en otage les vrais manifestants, si j'ose dire, qui viennent déclarer leur colère ou leur proposition, le cas échéant.
Et donc cette proposition,
ce texte, non, attendez, ce texte est un texte pour moi d'équilibre. Il y avait des choses dans la proposition sénatoriale qui étaient à mon avis et que moi-même je n'aurais pas voté, et le travail parlementaire, notamment par les députés de La République En Marche et du Modem, a permis de trouver un équilibre. Après, 50 députés qui s'abstiennent, pour envoyer peut-être aussi d'ailleurs un signal à la majorité sénatoriale, parce que la navette continue, là vous parlez du texte comme s'il était définitivement adopté.
Il y a une deuxième lecture, donc vous allez prendre compte de ces abstentions.
Et donc moi je pense qu'il faut aussi regarder le vote final de cette loi, mais il est normal aussi que dans le jeu démocratique entre les deux chambres, 50 députés puissent envoyer cette abstention. En tout cas, moi si j'avais été député, je l'aurais voté parce que je pense que c'est une bonne loi et elle va dans le bon sens.
Sébastien Lecornu, Maxime Nicole, qui est l'une des figures des Gilets jaunes, affirme que c'est une erreur de vous avoir confié l'organisation du débat car vous avez bien connu Alexandre Benalla dans sa jeunesse. Alors en fait, gendarme de réserve, vous avez été le commandant de son peloton. Avez-vous vraiment été proche de lui ?
J'étais son officier supérieur, donc quiconque ayant fait son service militaire ou ayant servi dans les armées ou chez les pompiers savent ce que ça veut dire. Voilà, il était première classe et j'étais sous-lieutenant, puis lieutenant. Je l'ai commandé comme j'ai commandé pratiquement une centaine de militaires. Donc j'aimerais bien que Monsieur Nicole lui aussi s'engage et qu'à faire réserviste dans la gendarmerie, ça sera peut-être plus utile.
Ah, l'an dernier, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, avait proposé 3 candidats pour le poste de procureur de Paris. Finalement, Emmanuel Macron a rejeté les 3 candidats pour nommer Rémi Yates. Alors quand Rémi Yates décide de perquisitionner Mediapart, comprenez-vous les doutes sur l'indépendance de la justice ?
Et donc là, il faut rappeler aussi que depuis maintenant plus de 10 ans, les gardes des Sceaux ne peuvent plus donner des instructions au procureur de la République, en tout cas plus d'instructions individuelles. Donc quand un procureur fait quelque chose, il le fait de manière indépendante, désormais.
Ces perquisitions ne mettent pas à mal la liberté de la presse.
Je suis désolé de dire que moi je respecte la séparation des pouvoirs, j'aime Montesquieu, j'appartiens au pouvoir exécutif, je ne parle donc pas du pouvoir judiciaire, et c'est très bien comme ça.
Merci Sébastien Lecornu.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale, c'est tous les jours à 8h15.